Bonsoir, ce soir l'émission du syndicat de l'informatique de la CNT, le monde merveilleux du travail. On va parler de l'informatique dans la société libertaire en compagnie de Guillaume.
Bonsoir.
Et de notre expert du soir, Jean-Christophe.
Bonsoir.
Notre invité.
Et de votre serviteur Clément, et on est accompagné ce soir de Salah la technique qu'on remercie d'avance.
Salut.
Ouais, donc ce soir, effectivement, on va essayer d'aborder un thème qui est potentiellement assez large, qui est les technologies, au sens bon, large, pas trop quand même, on va rester focalisé si on peut sur l'informatique, on va peut-être faire quelques débordements sur téléphonie, etc. Mais en tout cas, tout ce qu'on va appeler technologie de l'information et de communication dans l'optique d'une société libertaire, c'est-à-dire quelle place, quelle limite auraient ces technologies dans une la société telle qu'on la, on l'imagine, telle qu'on la rêve. Voilà, alors on va essayer de faire ça grosso modo en deux parties. Dans une première partie, on va évoquer les raisons qui font que pour nous, c'est un sujet qui nécessite absolument d'être traité dans le cadre d'une société libertaire, parce que c'est un thème qui ne peut pas être considéré comme neutre. Il y a des impacts, on va voir lesquels. Et dans une deuxième partie, on va essayer de réfléchir, de développer des idées, quelles seraient justement donc les limites, qu'est-ce qu'on ferait pas avec les technologies dans une société libertaire et pourquoi évidemment on le ferait ou on ne le ferait pas. Donc pour commencer, on va essayer de passer un petit peu en revue les différents impacts des technologies. Juste avant ça, peut-être, Clément et moi on est du syndicat. Pour ceux qui écoutent l'émission régulièrement, on est connus. On va peut-être laisser juste Jean-Christophe se présenter comme il le souhaite.
Ok. Oui, je suis Jean-Christophe. Et moi, je suis un militant qui pense que l'impact de l'informatique est tellement grand sur la société qu'il ne faut pas le laisser juste aux mains d'une petite élite ou de quelques intérêts privés. Et donc, je m'investis dans des associations. Donc, l'une d'elles, c'est Loren Data Network, qui est une association de défense de la neutralité du réseau. Et accessoirement, notre levier concret, c'est de fournir un accès à Internet neutre et libre de manière locale. Et je suis aussi dans une autre association qui s'appelle Nancy Bidouille. Et là, c'est plus éducation populaire, sensibilisation, récupération de matériel, mise en commun des moyens de production et des compétences. Et c'est aussi un levier concret, mais local toujours, pour militer.
Ok, merci. Suite à cette présentation qui m'a semblé très claire, j'espère que c'est le cas pour tout le monde, mais je pense, on va commencer donc à s'intéresser aux différents impacts que peuvent avoir déjà actuellement les technologies d'information et de communication sur notre société. Alors en gros, on a dégagé trois grands axes, un grand thème, qui sont les aspects éthiques ou idéologiques, les aspects sur le monde du travail et un aspect écologique, donc impact sur l'environnement. Alors, comme je disais tout à l'heure, donc ces technologies ne sont pas neutres, elles ont différents impacts, je viens de citer. En premier lieu, on peut parler d'impact éthique ou idéologique, convient peut-être pas, peut-être certains diraient moraux, certains diraient autre chose, je sais pas. Mais l'idée, c'est de comprendre que dès qu'on introduit des technologies, que ce soit Internet, que ce soit même la téléphonie mobile, que ce soit l'ordinateur en lui-même, même s'il n'est pas mis en réseau, par exemple, ça va avoir des impacts sur les individus, leur façon de communiquer, comment ils communiquent, avec qui, etc., etc. On sait évidemment que Internet, par exemple, permet à des gens de communiquer sur de très longues distances, permet aussi de communiquer de manière instantanée, qui est une différence majeure par rapport à des communications anciennes, on va dire, type tout simplement le courrier postal, ou même la communication orale, à partir du moment où on va pas rentrer en communication forcément tous les jours ou de manière immédiate avec la personne avec laquelle on voudrait communiquer. S'il faut faire, je sais pas, 5 km ou 3 jours de cheval pour aller entrer en communication avec quelqu'un, ça change la donne quand il y a juste à appuyer sur un bouton et que dans les 10 secondes ou 20 secondes qui suivent, on peut rentrer en communication avec cette même personne. Donc il y a un rapport au temps qui est forcément différent. Et il y a un rapport aux gens aussi qui est différent. On peut citer, moi je pense beaucoup dans ces cas-là, à tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Twitter, ou même les chats, type MSN ou Skype ou autre, qui vont induire un rapport social particulier. Alors après, certains disent c'est très mauvais, certains disent c'est super, c'est l'avenir. Bon, là, moi je serais plutôt dans le camp de ceux qui disent que c'est très mauvais pour ne rien cacher. Mais bon, après, tous les points de vue sont intéressants et c'est intéressant d'en débattre. Mais en tout cas, ce qu'on peut pas nier, c'est que ça change, en tout cas, ça apporte quelque chose dans le relationnel.
Ben, sur ce point, je pense que je vais essayer de ne pas m'étendre parce que c'est un point qui est très large, mais par exemple, sur le monde du travail, ça a un impact en termes de fragmentation du travail. Je pense au chat, par exemple, que nous, on utilise dans notre entreprise et qui fait que tu dois être disponible à tout instant parce que tu es sur le chat. Donc, si tu réponds pas, tu es sur le chat, mais que tu réponds pas, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, ça participe, par exemple, de la fragmentation du temps de travail. Et sur Internet, par exemple, ça contribue à une augmentation du rythme de la vie. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression de pouvoir faire plus de choses. Alors effectivement, on peut faire plus de choses, mais ce n'est pas pour ça que globalement on gagne du temps, parce que je n'ai pas l'impression que dans la société actuelle, vous tous comme moi, on n'a jamais de temps pour faire tout ce qu'on voudrait. Donc peut-être on utilise notre temps de manière différente, mais on n'en a toujours pas au final, pas plus que dans les années précédentes.
Non, c'est sûr qu'il y a un rapport au temps qui est complètement chamboulé. Et c'est marrant ce que tu dis, je sais plus où c'est que j'avais lu ça, mais un auteur, ouais, globalement, qui reprenait ton idée, qui disait à peu près cette chose-là. Et c'est vrai que c'est complètement différent. On vit plus le temps de la même manière. Bizarrement, on a des outils qui sont rapides et qui nous permettent d'aller plus vite en communication, plus vite à l'info qu'on recherche, mais on est toujours débordé de temps, on est toujours...
Voilà. Et plus on a accès, plus on est rapide, plus on doit être disponible pour les autres. Ouais. Alors si on répond pas au téléphone, si on répond pas aux mails dans les quelques minutes,
c'est un problème. En tout cas, c'est perçu comme un problème.
Voilà.
Là, on rejoint du coup le deuxième axe, effectivement, avec cette notion des impacts au travail. Et effectivement, il y a ce côté aliénant. Moi, j'ai envie de dire, en tout cas, qui peut être aliénant. Qui l'est, je pense, pour beaucoup de gens, effectivement, qui ont toujours leur portable pro ou leur PC pro à portée de main. Et dès que ça sonne, ils sont en train de boire un verre avec des amis, ils sont chez eux normalement tranquilles. Mais en fait, on n'est jamais tranquille parce que ça sonne, un SMS, un appel, et tu peux me vérifier ça vite fait. Donc effectivement, c'est un petit appel, ça prend 2 minutes, et puis je me connecte 5 minutes sur mon ordinateur, je fais un petit truc pour le boulot. Mais bon, ça peut très vite être pernicieux parce qu'effectivement... L'avantage, entre guillemets, quand on n'a pas ces technologies-là, c'est que on débauche, on pointe, on rentre chez soi et terminé jusqu'au lendemain matin. Alors que là, finalement, on a toujours un petit fil à la patte qui nous rappelle que le boulot se termine jamais et on reste le week-end, les vacances.
Ouais, ouais. D'ailleurs, il y a une classe action aux États-Unis à ce propos sur un syndicat de cadres qui demandait que les heures passées au téléphone en dehors du temps de travail soient comptées comme des heures supplémentaires. Et ça a fait scandale, enfin scandale entre guillemets, parce que voilà, les employeurs s'étaient dit mince, là ils ont mis un coin dans un endroit difficile, parce que si on commence à compter ces heures-là, effectivement, ça va nous coûter très cher. Et à ce propos, je veux citer deux livres, je pense, qui répondent très bien à ce qu'on vient de parler. Le premier de pièces et main-d'œuvre, qui s'appelle Le téléphone portable, gadget de destruction massive, qui est sorti il y a quelques années et qui reprend ces thèmes de manière détaillée. Et également les livres, je pense, à l'éditeur L'Échappée, des auteurs comme Jacques Ellul ou Cédric Biagini, qui traitent de ces problèmes dans la société des années 80 pour Jacques Ellul, et Biagini pour des thèmes très actuels.
Ouais, et bon, peut-être si on avait des contradicteurs ce soir, bon, hein, c'est pas à proprement parler le cas, mais...
Mais vous pouvez nous appeler au studio.
Si vous êtes un contradicteur, n'hésitez pas à appeler.
Au 01 43 71 89 40.
Même si vous n'êtes pas un contradicteur d'ailleurs, vous pouvez aussi appeler, hein, c'est pas réservé aux contradicteurs. Mais enfin, je sais, pour en avoir discuté, même il n'y a pas si longtemps que ça, avec quelqu'un, qui est plutôt justement dans ce que moi j'appelle fil à la passe, etc., qui va dire oui, mais moi sans ces outils-là, je pourrais pas faire mon boulot, quoi. C'est-à-dire actuellement, ce serait impossible de faire mon boulot, de réaliser mes tâches, d'être performant, etc., etc. Et quelque part, oui, mais c'est après j'aurais envie de toujours de mettre un mais derrière. C'est est-ce que ce boulot et est-ce que c'est vraiment indispensable de faire ce boulot?
Moi, j'ai été fil à la patte.
Ah oui,
mon premier emploi.
Tu peux témoigner.
On arrive, on donne un téléphone portable, un ordinateur portable, une clé pour se connecter à Internet depuis n'importe où. Et après, mais le jour où vous avez le patron qui vous appelle le samedi soir pour aller réparer un truc, commence à se poser des questions. Et moi, ma solution, ça a été de couper mon portable quand je sortais du travail après. Mais j'ai mis longtemps quand même. J'ai mis à peu près un an et demi avant de le faire.
Puis c'est pas facile. On se pose la question, est-ce que ça va pas me nuire?
Et effectivement, ça nuit. Parce qu'après, on pose la question, on fait « Ah, mais tu m'as pas répondu hier, ça sonnait occupé à 19h ou... » Oui.
Bizarrement.
Et c'était pareil, on était tenus d'avoir certains logiciels sur l'ordinateur avec le client mail qui envoyait des notifications à chaque nouveau mail.
Tu pouvais pas désactiver les notifications ?
On nous demandait de les garder. Et donc... Un changement de client mail ou un changement d'environnement, ça a vraiment tout changé. Maintenant, je ne réponds plus instantanément aux mails.
D'accord.
Ouais, et en fait, quelque part, c'est ce qu'on devrait tous faire. Mais c'est vrai que c'est pas facile comme démarche de dire non.
Ah bah non, parce que il y a de la pression sociale.
Oui.
Et au sein de l'entreprise à fond. Ouais.
Et puis même des fois, on se met soi-même une propre pression en se disant. Ok, il me file un portable, que ce soit un téléphone, un ordinateur, donc je suis important, je peux être joignable partout, et quelque part, même des fois, décrocher le week-end, devant ses amis ou devant son compagnon, sa compagne, ça fait très businessman, on m'appelle, on a besoin de moi. Il ne faut pas le négliger, ce côté-là, mine de rien. J'en parle parce que j'ai connu aussi, avant de retourner ma veste là-dessus, mais c'est pas négligeable, donc effectivement, ça a des impacts.
Et ça me fait penser à l'introduction que tu as faite, Guillaume, en précisant que les technologies de l'information et de la communication ne sont pas neutres. C'est un point que je veux souligner, qui est qu'on dit souvent que les technologies, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Mais alors ça, c'est vraiment une fausse idée, une mauvaise idée, parce que dans l'exemple que vous avez cité, il y a la démonstration que dès qu'on introduit une nouvelle technologie, elle a des conséquences qui sont indépendantes de son usage ou de son mésusage. Et donc voilà, le téléphone portable, dès que c'est sur le marché, forcément les patrons vont s'en servir comme une technologie de fil à la patte. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas dire que c'est neutre, parce que forcément ça transforme la société, comme l'automobile a transformé la société au XXe siècle. Et ça fait que c'est très difficile aujourd'hui de ne pas avoir de voiture, parce que tout le réseau de transport est centré sur la voiture.
Ouais, tout à fait.
Et ça nous amènera à la deuxième partie de l'émission, qui sera sur comment contrôler la technologie. Et c'est vraiment le problème auquel on va arriver tout de suite.
Oui, c'est exactement pour ça qu'on se pose la question de quelle place réserver à ces technologies, parce que effectivement, on sent bien qu'il faudra un moment décider, cadrer, dire ça on va le faire, ça on va pas le faire. En revanche, ça on va le développer, ça on va pas le développer.
Exactement.
Parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, ça a des impacts. Voilà, peut-être pour finir sur le... Enfin, pour finir, sauf si vous avez envie de... des choses à dire, mais sur la partie travail, partie sociale, j'avais noté deux, trois idées, notamment le fait que, au-delà donc de l'utilisation pernicieuse des technologies dont on vient de parler, le simple fait de produire ces technologies implique aussi quelque chose en termes de travail. Donc là, non plus un travail... entre guillemets intellectuel, un travail de cadre comme celui que nous on peut connaître, mais un travail d'ouvrier, puisque on dit toujours, moi c'est quelque chose qui me fascine quand on parle de virtuel, de dématérialisé, on a l'impression que tout ce qui est internet, tout ce qui est informatique, c'est dans les nuages, c'est ça, ça n'a pas de réalité matérielle, alors que évidemment c'est une réalité matérielle, il faut des câbles en cuivre pour faire circuler l'électricité, il faut des cartes mères, il faut des ordinateurs, des écrans, tout ce qu'on veut,
des métaux précieux,
des métaux, voilà, etc. Et tout ça, évidemment, il faut des gens pour le fabriquer, donc il faut des ouvriers à la chaîne qui, aujourd'hui principalement en Chine, à Taïwan. Mais ces ouvriers, il faut bien qu'ils soient là pour faire des ordinateurs, pour faire des téléphones, etc. Donc, si on veut une technologie informatique très présente, comme c'est le cas aujourd'hui, bah, ça implique forcément une part de travail, et de travail qui n'est pas forcément, il ne faut pas se mentir, un travail super excitant. Bon, quand on travaille à la chaîne, à mettre tout le temps le même composant toute la journée, et qu'on travaille 12 heures par jour, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui est extrêmement excitant. Donc, forcément, cette question-là se pose et se posera.
Ouais, et c'est particulièrement compliqué sur les technologies, sur l'informatique, parce que je pense que dans l'informatique, il n'y a pas de technique artisanale. Tu peux pas être, par exemple, je pense, tu peux comparer IKEA à un ébéniste. Tu as une manière de travailler qui va être autonome et qui va te rendre responsable. Tu as une manière de travailler chez IKEA qui, forcément, sur la production de meubles, elle peut pas t'épanouir. Et dans les technologies de l'information et de la communication, c'est pareil. Je pense que c'est un domaine tellement pointu, c'est tellement high-tech, que tu ne peux pas le produire dans des usines qui ne sont pas taylorisées, qui ne sont pas aliénantes. Ou alors, je n'en connais pas en tout cas, et ça me semble compliqué. Peut-être
que... C'est vrai que l'informatique n'a pas connu cette phase d'artisanat où tu étais le petit artisan dans son atelier qui faisait son ordinateur tous les 6 mois.
Alors, les quelques tentatives justement de matériel, on va dire... Il y a
des mecs qui ont bossé dans leur garage avant d'inventer des trucs.
Dans leur garage.
Le gars, là, la légende d'iPhone.
Si, les débuts, oui, les débuts, mais ça fait pas de la production
de masse.
Oui, de masse.
C'était la conception d'un prototype
conception.
Ou quelque
et d'ailleurs,
chose comme ça.
C'est ça. Hein, il y a des tentatives de montage de matériel libre, matériel ouvert, de manière un peu artisanale, avec le processus qui est ouvert, mais on s'aperçoit que quand on essaye d'en faire un peu plus pour pouvoir le diffuser, eh ben, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à finalement, ça reste du prototype local, et puis on n'atteint pas forcément des qualités très élevées.
En plus, ouais, si tu veux dire, au-delà de l'aspect quantité, il y a un côté qualité qui n'est pas forcément au rendez-vous. Quoi.
Voilà. Donc on arrive à faire un prototype, on arrive à faire de l'innovation, mais on va rarement plus loin.
Ouais, on ne va pas équiper toute une région avec l'artisan local. Quoi. Bon, bah, du coup, oui, ça fait effectivement partie des questions. Du coup, on a raison de mettre ça sur la table.
Ou alors, c'est un coût très élevé.
Ouais,
donc, c'est toujours à essayer de combiner, arriver à produire, on va dire, de manière de masse, tout en respectant les conditions de travail, selon notre standing. Plus se dire j'ai pas envie d'avoir un impact écologique, un mauvais impact écologique. En fait, on n'arrive jamais à combiner les trois. On peut en prendre à chaque fois deux, mais pas trois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté nous dans notre hackerspace pour essayer de produire. Alors c'était pas forcément de la technologie de pointe, hein, mais on a tenté de produire des choses et on n'arrive pas. On n'arrive pas.
Vous avez essayé concrètement de fabriquer une unité centrale
Non, fabriquer, alors même pas forcément des unités centrales, du petit matériel électronique. Et alors on essaye de faire le maximum de choses soi-même. Donc c'est un peu l'esprit, c'est l'esprit do it yourself. Mm-hmm. Faites-le vous-même. Et on n'y arrive pas forcément.
Ouais, comme quoi. comme quoi il y a tout à ses limites. Et peut-être, alors, dernier impact, et puis après, on va demander à Salah de nous mettre un coup de musique pour faire une pause. Donc, le dernier aspect qu'on va évoquer, c'est l'écologie. Puisque forcément, produire du matériel, donc du hardware, que ce soit des câbles, que ce soit des écrans, que ce soit des unités centrales, tout type de composants, ça demande des ressources, des matières premières. Notamment ce qu'on appelle les terres rares, donc ce sont des métaux en fait, ce sont pas de la terre, mais qui sont des métaux rares, mais aussi d'autres métaux pas forcément rares, que ce soit le cuivre ou autre pour les câbles par exemple, et puis on va dire la consommation, que ce soit d'énergie ou de produits chimiques pour construire physiquement tous ces matériels, ça a un impact. Et on pourrait parler aussi après des déchets, c'est-à-dire le PC qui crame ou le téléphone hors d'usage. quand on le jette, si on ne le retraite pas correctement, forcément, ça crée de la pollution par les métaux lourds, que ce soit mercure ou autre. C'est extrêmement polluant comme technologie. Et en plus de ça, il y a le côté alimentation, puisque donc tout ça fonctionne évidemment à l'électricité. Donc l'électricité, elle se produit comment ? Soit par des centrales à fioul, enfin fioul à pétrole quoi, globalement, soit par des centrales nucléaires. Donc dans les deux cas, on utilise des énergies fossiles, donc limitées, et a fortiori polluantes. Donc,
sur ce sujet, je ne vais pas donner de chiffres parce que je ne les ai pas tout simplement. Mais la consommation d'électricité en France ne fait qu'augmenter. Donc, je veux dire, quand tu dis les centrales nucléaires, c'est vrai que tant qu'on consomme autant d'électricité que maintenant, on ne peut pas se passer des centrales nucléaires parce qu'elles ont un avantage, c'est qu'elles produisent beaucoup. Donc, quand tu dis réduire les impacts écologiques, ça permet aussi de réduire ou de changer les modes de production, en particulier l'électricité. Et c'est une question importante à mes yeux.
Ah oui, je pense aussi, c'est sûr. En plus, la demande en énergie ne fait qu'augmenter. Alors qu'on sait que les ressources sont limitées, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, uranium, plutonium, pétrole, tout ce qu'on veut, c'est limité. Et pour l'instant, notre société fonctionne sur ce type d'énergie. Donc, à un moment donné, se posera forcément la question, au minimum, de comment on va faire pour continuer à alimenter ce parc technologique considérable et qui ne fait qu'augmenter jour après jour, avec des ressources qui, elles, ne vont faire que diminuer. Donc, va se poser une équation basiquement
difficile.
pragmatique, c'est difficile. C'est comment on fait pour continuer à nourrir tout ça, finalement. Et forcément, ça peut avoir des impacts très importants. Il me semble qu'en cas de crise énergétique, en Occident en tout cas, on vivrait quand même une crise sociale et humaine extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y aurait énormément de choses qui ne fonctionneraient plus du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain. Peut-être pas du jour au lendemain, mais au moins sur une période de X années de lente déperdition d'énergie. On serait obligé de remettre en cause totalement notre façon de vivre actuelle, qui de toute façon, quoi qu'on y fasse, n'est pas pérenne.
Ouais.
Autre chose là-dessus ou... Commentaire non. Bon du coup on va laisser Salah nous envoyer une petite pause musicale s'il le veut bien.
Si le président des États-Unis d'Amérique refuse de négocier le repli intégral de l'intrusion occidentale sous toutes ses formes dans le monde arabe, je jure d'expédier le peuple américain dans l'enfer qu'il mérite.
I don't want to engage. Yes, I will. Bonsoir, donc vous venez d'entendre un morceau de Mycelium, la grosse techno. Donc le morceau c'était les guerres américaines. Donc vous êtes toujours donc, sur Radio Libertaire dans le monde merveilleux du travail. Aujourd'hui c'est les camarades du S2I.
C'est ça, le syndicat de l'industrie informatique de la CNT. Le sujet de ce soir est l'informatique dans une société libertaire. Dans la première partie, on a parlé des différents impacts des technologies de l'information et de la communication. Et dans le deuxième, on va aborder le thème qui moi me semble le plus difficile à aborder et qui demande une analyse fine des problèmes, qui est comment dans une société libertaire, donc qui est censée respecter la liberté de chacun, l'autonomie de chacun, comment quand même contrôler l'impact des technologies de l'information et de la communication. Et le premier problème soulevé par ces technologies, c'est par exemple le fichage et l'espionnage des communications. Par fichage, j'entends par exemple la base de données géante de l'État français, par exemple sur le, comment ça s'appelle, le STIC.
Le STIC, je pensais à Edwige, mais c'est encore autre chose.
Le STIC, qui est la base de données en fait, des infractions, où sont listées à la fois les victimes et les auteurs de ces infractions, et qui a un taux d'erreur hallucinant, qui est de l'ordre d'à peu près de 80%. C'est principalement score. Intégralement faux, sachant que si vous êtes aussi déclaré innocent après un jugement, vous n'êtes pas retiré du STIC. Donc voilà, ça pose certains problèmes. Donc on va en reparler, hein. Je lance juste un peu les différents sujets. Et sur l'espionnage, je pense évidemment différentes dictatures qui se sont illustrées récemment sur l'espionnage des accès Internet. Je pense dans les pays du monde arabe, en Iran, toujours actuellement, en Chine bien sûr. Et la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment on contrôle les impacts négatifs de la technologie à ce propos.
Oui, bah c'est effectivement un thème hyper important, de toute société, libertaire ou pas. Nous, effectivement, on réfléchit sur la question des sociétés libertaires, mais on voit bien que c'est une question qui se pose, y compris dans la société telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il y a eu toute la mouvance Anonymous, etc., les revendications par rapport à la loi ACTA, etc., l'année dernière principalement. Donc, ces questions-là agitent forcément... les internautes, mais au-delà de ça, beaucoup d'autres personnes, parce qu'effectivement, le risque, c'est ficher les gens, c'est écouter ou lire leurs conversations, que ce soit par courriel, que ce soit par téléphone, Skype, tout ce qu'on veut. Ça peut être la censure aussi, empêcher une certaine liberté d'expression. Moi, je veux ouvrir un site internet pour parler au hasard d'anarchie, admettons, et... on coupe mon site, par exemple, ça c'est la censure. Bon, et ça c'est possible, en tout cas techniquement ce serait possible. C'est possible pour un État de le faire, c'est possible pour une société privée, pourquoi pas, on peut imaginer tout un tas de scénarios. Effectivement, comme tu disais Clément, c'est ce qui se passe en Chine actuellement. Bon, la censure d'Internet, c'est quelque chose d'assez spectaculaire là-bas. Même Google a dû baisser son pantalon face aux Chinois... pour pouvoir avoir une partie de leur marché et dire, bon, ok, d'accord, tel et tel site, on fera la censure, on mettra pas tout. Bon, voilà, c'est des choses qui, techniquement, sont faisables. Donc, la question, c'est... qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on veut pas? Bon, pour nous, c'est relativement clair. C'est sûr que les questions de fichage, d'espionnage et de censure, on n'en veut pas. Maintenant... il faudra développer quelque chose qui soit, alors je ne sais pas si ce sera une commission, si ce sera une entité administrativo geek, je ne sais pas sous quelle forme ça pourrait exister, mais en tout cas quelque chose, quelqu'un qui contrôle l'absence de fichage, l'absence de...
Alors c'est un peu, ou ça me paraît paradoxal quand tu dis il faut quelqu'un qui contrôle l'absence de fichage.
Quelqu'un,
parce que
justement,
c'est... quelqu'un. Mais l'Internet, à la base, techniquement, il est décentralisé. Donc il me semble que normalement, si les acteurs de l'Internet sont décentralisés, on peut difficilement exercer un contrôle technique sur eux. Sauf avoir un pouvoir centralisé, justement, qui...
Et c'est ce qui fait sa robustesse. C'est la robustesse d'Internet, c'était un monde complètement décentralisé. Et donc, si on perd un morceau du réseau, ou si on arrive à bloquer un morceau du réseau, on ne bloque pas le reste du réseau. On ne fait pas tomber. Alors, quand je dis bloquer, c'est volontairement ou involontairement. Et c'était justement la robustesse du réseau. Bon, malheureusement...
Mais c'est plus le cas aujourd'hui.
Alors, c'est pas que c'est plus le cas, mais c'est que certaines entités ou certains groupes ou intérêts privés ou alors gouvernementaux.
Tu peux citer des noms, hein. Ouais, top, hein, on n'est pas sur Europe 1.
Balance,
hein.
Balance.
Non, mais disons qu'il y a certains. Que c'est beaucoup plus facile d'exercer un contrôle sur quelque chose de centralisé. Et donc, si on commence à dire qu'au lieu d'avoir des tuyaux qui vont dans tous les sens, connectés à des nœuds qui sont partout, eh ben les tuyaux, on les fait venir tous au même endroit, c'est très facile pour un gouvernement de mettre une porte devant ces tuyaux. C'est ce qui s'est passé pendant les printemps arabes. C'est un peu plus difficile, on va dire, en France, parce qu'il y a un peu plus de... Il y a plus de fournisseurs d'accès, il y a plus de... Donc la centralisation, finalement, qui est un peu un mouvement que certaines grosses entreprises tentent à pousser, ben c'est quelque chose qui va à l'encontre d'Internet. Ce qui peut rendre la censure, finalement, très simple. Et donc... Donc j'ai tendance à dire que pour contrer ce genre de mouvement, ben, au contraire, il faut pousser l'Internet comme à ses débuts, avec, c'est-à-dire le décentraliser. C'est-à-dire que chacun n'est pas juste un simple utilisateur ou un consommateur d'Internet, mais chacun est un nœud d'Internet, chacun fait partie du réseau. Et donc, on va faire de l'hébergement soi-même, on va créer son propre fournisseur d'accès. Voilà.
Ça, à la limite, bon, c'est une question d'accès. Donc, ça évite effectivement ce qu'on a vu, que ce soit en Syrie ou ailleurs, où le gouvernement décide, par exemple, de couper complètement Internet. Donc là, dans ce que tu dis, on pourrait quand même avoir accès, continuer à communiquer avec l'extérieur, avec son voisin, etc. Mais si un acteur d'Internet, au hasard, encore une fois, un Google, par exemple, qui étend ses tentacules un peu partout, dans tous les sens... On sait que Google, par exemple, quand un internaute visite un site, il est capable de savoir où habite, où géographiquement est situé cet internaute, quel site il a visité, combien de temps il est resté sur cette page, etc., etc. Il a énormément d'infos. Ou je pense à Facebook aussi, par exemple. Facebook, on laisse énormément d'infos. On laisse son nom, son prénom, on peut laisser son adresse, on peut laisser son âge, on peut laisser qui on a pour compagne, compagnon, etc., etc. Donc on laisse énormément d'informations. Qu'est-ce qui pourrait garantir qu'une entité comme celle-là, comme Facebook, ne se servirait pas de sa base de données pour donner des infos à X ou à Y en disant, ah tiens, lui était à telle manif, ou il était à telle action, je sais pas, militante ou quoi, ou machin il est homo, ou machin il est tel parti politique, enfin, on peut tout imaginer après.
Alors qu'est-ce qui pourrait garantir ça? Je crois qu'il n'y a pas de solution universelle. Ouais. Maintenant, comment essayer de limiter ça? C'est... J'ai tendance à dire qu'il faut que les gens qui utilisent ces réseaux sociaux ou qui surfent, déjà, soient conscients qu'ils laissent des informations partout. Et à partir du moment où ils sont conscients qu'ils laissent des informations personnelles, privées, un peu partout, normalement, ils ne vont pas raconter n'importe quoi.
C'est-à-dire qu'à partir, pas toute leur vie, en tout cas.
À partir du moment où on commence à utiliser un Facebook, il faut considérer que tout ce qu'on raconte sur Facebook, c'est public. Et en général, quand on raconte ça aux gens, ils commencent à réduire les informations qui sont diffusées. Ça peut être, donc finalement c'est de la sensibilisation, de l'éducation.
Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Finalement, on rentre dans le cadre là, de l'éducation sur les technologies. Comment utiliser, quels sont les impacts, etc.
Exactement.
Ça n'existe pas d'ailleurs actuellement, enfin à ma connaissance. Je ne travaille pas à l'école, mais il ne me semble pas qu'il y ait des cours véritables qui soient dispensés aux enfants ou aux jeunes là-dessus. Bon, à part les cours. Moi j'avais, enfin à mon époque, je ne suis pas si vieux, mais à mon époque, il y avait ce qu'on appelait les cours de technologie. On faisait un peu de circuits imprimés et puis un petit peu d'ordinateur.
Alors non, justement, non, on met de plus en plus, alors, que ce soit au lycée, au collège et en primaire, on met des ordinateurs, des claviers, des souris entre les mains des enfants. On leur met même des tablettes payées par le contribuable.
Par exemple en Corrèze,
donc le fief de notre président, et on achète des iPads. Donc, les enfants ont ça, mais il n'y a pas de formation et de sensibilisation au danger
potentiel.
C'est finalement la technologie et l'informatique, c'est quand même quelque chose de super récent, c'est que c'est très jeune et ça nous a rejoint tellement vite que je crois que l'éducation n'a pas suivi.
Non, complètement, et j'en ai parlé avec deux, trois personnes qui sont en contact avec des enfants justement dans ce domaine-là, enfin, que ce soit ordinateur, tablette ou même console de jeu. Et effectivement, il y en a beaucoup qui se retrouvent, comme tu dis, avec ça entre les mains, mais qui... Enfin, même pas que des jeunes d'ailleurs, aussi des fois des personnes plus âgées qui simplement c'est leur premier contact avec la technologie, et on leur dit bah tiens, tu pourras envoyer des mails, tu pourras aller sur internet, visiter ceci, cela, et qui comprennent rien du tout à la question de navigation privée, est-ce que c'est la sécurité, les cookies, IP.
Et il faut souligner que les acteurs privés qu'on a cités, que ce soit Facebook ou Google par exemple, ont un intérêt commercial super important à avoir des informations précises sur leurs clients, parce que le capital de Facebook, c'est vraiment les informations personnelles qu'il a sur ses clients qui permettent de faire des publicités qui sont très ciblées, et les annonceurs payent ces publicités cher. Donc c'est vraiment le cœur de leur business.
C'est quand on utilise le moteur de recherche Google ou tous les outils Google, quand on utilise Facebook, les gens vont dire c'est gratuit. Ah non, c'est pas gratuit. c'est parce que c'est nous le produit. Et le croisement de données, c'est vraiment... Ça a énormément de valeur pour les annonceurs.
Oui, c'est certain que ni Google, ni Facebook, ni aucun autre acteur vont mettre à dispo des outils gratuitement, en tout cas pas sans avoir un retour financier derrière.
Ouais, voilà, c'est clair que l'intérêt de ces grandes boîtes, c'est que les gens passent le plus de temps possible sur Internet, et en particulier visitent le plus de sites possibles. Je pense à un livre de Cédric Biagini que j'ai lu récemment, qui montre, en citant différentes études, que leur intérêt, c'est que la lecture soit fragmentaire, de manière à ce que tu sautes de site en site pour avoir le plus de bannières de publicité sur les côtés qui te sont disponibles. Et donc là, ça veut dire que ça crée un Internet qui est forcément fragmentaire, parce qu'on ne va pas t'inciter à écrire des pages qui sont très longues, des articles qui sont très longs, parce que ça va à l'encontre du business. Et donc, ça transforme, je reviens sur l'éducation, ça transforme la manière de réfléchir, parce que moi, en tant qu'ancien enseignant, je me rends compte que c'est très difficile pour les élèves de se concentrer longtemps sur des sujets qui sont forcément nécessairement complexes ou longs. Et là, il y a vraiment une transformation qui se fait au bénéfice d'intérêts commerciaux en partie.
Et une illustration du fait d'être dans l'instant, de faire quelque chose de très court sans forcément de développer une idée, c'est les services comme Twitter, où vous devez vous exprimer en 140 caractères.
Ouais, c'est carrément limité.
Alors vous lisez un journal, vous avez une page pour un article, là, 140 caractères pour exprimer quelque chose.
Oui, puis, qui en général est d'un niveau assez
exceptionnel. C'est une illustration vraiment de...
Je ne sais plus qui a raconté que les articles de la Déclaration des droits de l'homme, si tu les mettais en 140 caractères, il y en avait une minorité qui passait la barre sous les 140 caractères. Ah, malheureusement, ça va être difficile.
Oui, c'est ça, mais ça rejoint exactement ce à quoi je pensais au tout début quand je disais que c'est un des impacts que je définissais par éthique et idéologique sans trouver le mot forcément juste. Mais c'est exactement ça, ça change en tout cas nos comportements. Et effectivement, ça, on devient fragmentaire, on pense immédiat, on veut une info tout de suite, mais on veut une petite info, et puis on passe tout de suite à une autre petite info, ouais, et puis une autre petite info, et en fait on se pose plus, quoi. On n'a plus l'esprit posé, on n'a plus l'esprit qui réfléchit, on a l'esprit de zapper finalement, qui est devant sa télé avec sa télécommande, il ne sait pas ce qu'il cherche, il ne cherche rien de spécial d'ailleurs, il s'emmerde, mais il zappe, et puis il passe 3 heures comme ça à zapper, et puis oh, allez, tiens, je vais aller me coucher. Ouais, c'est ça, avoir trois quarts du temps des pubs. Et puis finalement, voilà, t'es allé te coucher, t'as rien appris, t'as rien vu de vraiment percutant. Et voilà, finalement, on est en train de glisser là-dedans.
Ouais. Et à ce sujet, ça me fait penser à deux bouquins qui sont bons. C'est un bouquin de Nicolas Carr qui s'appelle Google nous rend-il bêtes. Alors le titre est volontairement un provocateur. Hein. Je veux pas résoudre ce débat, cette question et à sa réponse binaire. C'est plus compliqué que ça, mais c'est un bon bouquin. Et également un bouquin, Jean-Christophe, tu te rappelleras peut-être l'auteur de ce livre qui est TV Lobotomie.
Ah, ça dit quelque chose.
Démurger,
d'accord. Voilà, un excellent livre qui compile tout un tas de résultats scientifiques sur l'impact de la télévision sur nos jeunes bambins.
Mais c'est vrai d'ailleurs qu'on n'en parle pas, mais on pourrait aussi inclure la télévision dans le périmètre de ce qu'on appelle technologie de l'information et de la communication.
Surtout qu'avec la télé connectée à Internet, tout va bientôt se mélanger. Je pense qu'on fera plus trop la différence entre un ordinateur, une tablette et une télévision.
Oui,
puis
c'est déjà le cas. Hein,
dans le métro, j'en vois plein des gens avec leur petit PDAphone, là, iPhone ou autre, qui soit font de la console de jeu, soit regardent la télé ou un film. Ou finalement, voilà, c'est ça. Il y a plus un support pour une activité. Tout est accessible sur tous les supports. Mais bon, il paraît que c'est l'avenir. Alors.
C'est ça.
On est des gros ringards si on dit non. Je crois que c'est ça la morale. Donc voilà, on a un peu débordé de ce qu'on disait au départ sur le fichage, l'espionnage et la censure. Mais
il y a un point justement pour se raccrocher à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on n'a pas parlé. Peut-être Jean-Christophe, tu pourras nous en parler. C'est le phénomène du logiciel libre, c'est-à-dire un logiciel où les sources du logiciel que vous utilisez sont disponibles, donc vous pouvez les lire et les étudier. Bon, si vous n'êtes pas un informaticien, ça va être compliqué, mais il y a des informaticiens qui pourront peut-être le faire pour vous. Et l'intérêt du logiciel libre, c'est que vous allez pouvoir contrôler que le logiciel que vous exécutez sur votre ordinateur a un certain comportement, par exemple ne se connecte pas à des serveurs sans votre permission ou ne fait pas de choses inattendues. Est-ce que ça, Jean-Christophe, dans le... pour éviter, par exemple, les problèmes dont on a parlé tout à l'heure, de bases de données centralisées, de protocoles de communication qui agissent à l'insu de leur utilisateur, est-ce que ça, c'est une partie de la réponse ?
Alors, le logiciel libre ne résout pas tous les soucis, qu'on soit clair. Mais alors, toi, tu as parlé de logiciel libre et tu as parlé aussi de protocole. Donc la manière de communiquer, qui n'est pas forcément le logiciel lui-même, c'est pas l'application.
Et ça, elle peut être elle aussi, soit fermée, soit ouverte.
Voilà. Alors ça, justement, souvent, on éprouve la robustesse d'un algorithme. Si l'algorithme est public et qu'on a du mal à le casser, ça nous donne plus confiance. Donc justement, si le protocole est ouvert, c'est beaucoup plus intéressant. Maintenant, le logiciel libre en soi, non, ça résout pas tous les problèmes. Ça peut être intéressant d'avoir du logiciel libre dans des endroits très critiques. Alors, en ce moment, ce qui est à la mode, c'est le vote électronique. C'est un sujet, c'est vraiment un sujet où il y a beaucoup de monde en informatique qui travaille dessus, parce que ça a des conséquences aussi dans la société de tous les jours, dans l'exercice démocratique. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment résolu pour le moment. Et on se dit, mais mince, est-ce que vous êtes prêts, vous, à aller voter en appuyant sur des boutons de machines dont le matériel et le logiciel ont été ne sont pas contrôlables. Est-ce que vous êtes prêt à aller voter, à donner une voix ? Et c'est une entreprise privée qui ne vous montre pas le contenu de la boîte, qui va vous donner le résultat. Est-ce que vous êtes prêt à ça ? Et alors, certains disent oui, mais parce qu'on va contrôler cette entreprise, mais on va pas le mettre à disposition de tous. D'autres disent non, il faut du logiciel libre. Et donc sur certains points critiques, ça peut être une solution ou une partie de la solution. Je pense pas que le logiciel libre soit la solution pour tout. Et pourtant, je suis vraiment un militant du logiciel libre.
Ok, mais si je veux m'assurer que mon navigateur internet m'assurer de son comportement, il vaut quand même mieux que j'utilise un logiciel libre comme Firefox qu'un autre.
Voilà, alors effectivement, il vaut mieux avoir la main dessus, pouvoir contrôler le contenu pour... Oui, tout à fait. Tout à fait.
Ou qu'au moins, si soi-même on n'y connaît rien, comment on se dise,
voilà, il y a des spécialistes qui le font.
Personnes qui s'y connaissent, qui eux ont regardé comment ça se passe dans le code et qui ont validé, ont dit, ouais, moi c'est bon pour moi. Et se fie à ça, quoi.
Voilà, tout à fait, oui. Et si jamais il y a un comportement malicieux ou un comportement non voulu, si le logiciel est libre, eh bien, normalement, la personne qui détecte le comportement, si elle a les compétences, elle peut modifier ou faire modifier ça. Et diffuser une nouvelle version du logiciel. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est une partie de la solution.
Et ça, c'est en gros une vérification commune des outils, où on vérifie le plus
possible. Mise en commun de la connaissance commune.
On développe tous ensemble et on vérifie tous ensemble qu'il n'y ait pas n'importe quoi dans le code, que justement on ne soit pas fiché ou espionné par ce logiciel ou par ce programme informatique.
C'est une manière de devenir un petit peu plus autonome, quoi. C'est-à-dire que tu prends en main ou tu délègues à des personnes proches ou plus proches que maintenant le contrôle de la technologie que tu utilises.
Et se réapproprier les certains moyens de communication ou certains moyens de, peut-être pas, de production pour et ne pas les laisser aux mains juste d'une élite qui travaillerait en boîte noire.
Voilà.
Je pense que ça, c'est fondamental.
Alors après, il y aurait peut-être la question de... Alors ça va rejoindre peut-être une autre idée que j'avais en tête, qui est celle de du coût, finalement, de toutes ces technologies et de la gratuité. Parce que quand on parle d'open source ou donc de logiciels libres, on pense souvent gratuit. Alors déjà, ce qui ne va pas forcément de pair. Mm-hmm. Souvent, ça va de pair, mais pas forcément. Et il y a quand même la notion, je trouve, beaucoup dans les technologies, surtout Internet, évidemment, mais ça pourrait être vrai pour d'autres, cette notion de gratuité, c'est-à-dire qu'on s'attend toujours à aller sur un site, ce soit gratuit, télécharger un truc, ce soit gratuit, etc. etc. Et il y a beaucoup cette revendication, enfin je l'ai beaucoup entendu en tout cas dans toute la phase ACTA, Anonymous, etc. Il y a énormément cette revendication, ok, on veut un réseau neutre, etc. Et on veut des contenus, enfin on veut accéder à certains contenus le plus possible, gratuitement, sans contrainte, facilement, etc., etc. Alors, bon, oui, non, je sais pas, mais en tout cas, ça pose une question vraiment essentielle, qui est quand même celle du coût. Qui va produire les matériels, les logiciels? Parce que ça coûte à minima du temps humain, en tout cas, les programmeurs, les développeurs, etc. Et on a parlé tout à l'heure un petit peu du coût des hardware aussi, de la production physique des matériels. Donc il y a cette partie-là, cette revendication, on va dire, de gratuité, souvent, dans nos milieux en tout cas, qui me paraît pas si simple que ça à trancher.
Alors, c'est effectivement une revendication qu'on voit, moi j'ai l'impression que c'est quand même parce qu'on a beaucoup été habitué à enfin, quand la technologie type téléphone portable, smartphone, internet a débarqué en France, relativement vite, on a eu des forfaits illimités. Ça a donné certaines habitudes. Donc on n'arrive pas forcément à voir les coûts. C'est pas amusant, mais c'est le même problème qu'à la presse en ce moment. C'est la presse fournit du contenu en ligne gratuitement. Et alors comment est-ce qu'ils
se rémunèrent?
Comment ils se rémunèrent? Leurs journalistes, leur électricité.
Voilà. Donc il y a certains médias qui ont choisi de payer, d'autres de passer uniquement par de la pub. Mais pour l'informatique, on va dire pour le côté logiciel, c'est le même problème. Et tout gratuit, c'est pour moi, c'est une illusion. Mais
et puis c'est même, pour moi, quelque part, c'est néfaste. Si tu parlais de la presse, effectivement, moi, je suis totalement contre les journaux gratuits qui, en général, sont des catalogues de pubs. Une page sur deux, c'est de la pub. Et les articles, il y a trois lignes, c'est du caca.
Pas de réflexion.
Il n'y a rien du tout.
du fait
de
divers.
Temps en temps, hein, je les feuillette juste pour m'assurer que j'ai toujours le même avis dessus. Et malheureusement, j'ai toujours le même avis dessus. Mais voilà, c'est vraiment le vice. Donc je préfère acheter un journal, 2 euros, 3 euros, X euros, en me disant, bon, voilà, je sais que je paye le papier et aussi ceux qui bossent dessus pour le créer et qui vont faire de la qualité, en tout cas...
Qui vont faire
du vrai contenu, quelque chose qui... Après, je peux être d'accord, pas d'accord, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais au moins ils auront réfléchi dessus, ils auront pris le temps, etc. etc. Et ouais. Sur Internet, il y a vraiment cette question-là aussi, je pense, parce qu'il me semble, enfin, moi en tout cas j'ai cette impression qu'Internet est de plus en plus gavé de pubs, de ouais. jeux divers qui renvoient sur des sites...
Ouais.
Mais là, vous restez dans une vision d'une société capitaliste. Évidemment, ça sera difficile d'en sortir où forcément, tu dois être rémunéré pour ton travail qui est très, très souvent aliénant ou abrutissant. Mais dans le cadre du logiciel libre, on voit par exemple qu'il y a des gens qui contribuent à ces logiciels gratuitement pour de vrai. Je veux dire, ils sont pas rémunérés. Et dans une société libertaire, je peux imaginer qu'il y a des gens... Déjà, le temps de travail serait sûrement diminué et qu'il y a des gens qui seraient... qui contribuerait, je dis pas gratuitement, mais ce serait un travail qui serait tout à fait qui leur ferait plaisir, quoi, pour eux de contribuer au développement du logiciel.
Une passion, enfin, voilà, comme il y en a aujourd'hui déjà, effectivement. Voilà. Mais après, moi, la question que je me pose, c'est effectivement, je suis convaincu, comme tu dis, qu'il y aurait des gens qui seraient dans ce cadre-là, qui auraient envie de participer de leur plein gré, sans rémunération, etc. Et comme c'est le cas aujourd'hui, donc c'est bien la preuve que de toute façon, ça marcherait. Et après, la question, c'est est-ce qu'on aurait quand même besoin, on va dire, d'informaticiens entre guillemets professionnels, c'est-à-dire dont l'activité pour la société serait principalement de développer du logiciel, innover, inventer des technologies différentes, mieux adaptées, etc. etc. Après, est-ce qu'on compte que sur du bénévolat, en gros, ou est-ce que la société instaure des postes, je sais pas, des emplois, là,
des si mandats,
ouais, des mandats, voilà, ce serait plutôt ça, des mandats d'informaticiens.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est vrai, c'est super difficile à répondre tant que t'es pas dans une société qui s'approche de ce cadre-là, mais effectivement, je pense que voilà, on s'approcherait de gens qui travailleraient par passion. Et qui ne conforcerait pas à aller au boulot pour faire ça. Ouais. Je pense qu'il y a des travaux d'informaticiens, de développement de logiciels qui sont épanouissants.
Oui, enfin, des gens qui travaillent par passion. Bon, dans l'informatique, dans le logiciel libre, on en trouve quand même. Et il y a des sociétés qui vendent du logiciel libre. Hein, souvent, c'est des passionnés. Ils ne font pas ça pour l'argent.
C'est pas des et donc, carriéristes.
Mais c'est vraiment de niche.
Ça, ouais.
Permettre, en fait, le truc, c'est que la question, elle se poserait de la même manière pour un maçon ou un menuisier, en fait. Le truc,
oui,
c'est
tout
que
à fait.
Dans une société qu'on se dirait libertaire ou ce qu'on veut, le truc, c'est qu'en fait, il y aurait des métiers en fonction des besoins qu'on aura tous décidés. Donc, si on décide tous qu'il y a besoin d'informaticiens pour faire certains trucs, bah, ça sera la même chose que si on décide qu'il faut des maçons et des carreleurs et des trucs comme ça, quoi.
Ouais,
en fait, je pense que la question, il faut plutôt se la poser comme ça, sur à partir du moment où il y a des besoins. Ben, y a des gens qui seront, toi, qui font ce métier-là, quoi.
Ouais, qui seront prêts à y répondre par plaisir.
Qui aient des vrais besoins.
Qui seront prêts à prendre, en tout cas, le mandat ou l'emploi. Enfin, on appellerait ça d'une manière ou d'une autre. Mais
que ce soit pas un besoin créé par des actionnaires.
Oui, voilà, c'est ça.
Parce qu'actuellement, il y a des besoins, mais c'est des besoins qui sont forgés par des actionnaires.
Oui, c'est des faux besoins ou des envies ou des ce qu'on veut, ouais. Effectivement, il faudrait prendre le problème à l'envers. Quels sont les besoins? Ok, il y a besoin de tant de personnes pour les satisfaire. Maintenant, formons ou cherchons les personnes prêtes à prendre ces mandats ou ces emplois-là. Eh bien, Salah, sur ce, peux-tu nous envoyer une petite coupure musicale qui va bien ?
Du respect, je n'en ai pas pour l'état. Cela joue un peu trop du moment. veut sauver le monde.
Sauver le monde, mais laisser crever tous les bâtards qu'il y a. Mais si MC, ma malédiction s'adresse à toi. Tous les blancs sont heureux d'applaudir le gentil Renoir. Alors t'étonnes pas qu'il y ait des petits cons qui battent sur toi. Un premier album avec des paroles d'un train de six courants. Puis recommencer en pied dans le suivant, c'est inquiétant. On me fait signe que je me trompe, donc je m'excuse à l'instant. Je dirais pas qu'Henri Salvador cherchait un remplaçant. Nique ton mère 94. Mon ami Chamdi, mon ami Chamdi, voici la TRIBU. N'insulte pas ta mère, elle n'est pour rien dans ta misère. C'est qui donne le coup pas, mon ami, pour la vie, nique ton mère. Et mon seul sponsor, mon ami, j'y perds un peu de thunes, mais je libère mon corps. Hey, nique ton mère, à l'est, à l'ouest, mon ami, au sud, au nord, c'est pas ta faute, c'est qu'ils veulent avec ou sans ton accord. Dans cette ville, je perds le droit de crier haut et fort.
Nique ton mère, nique ce port.
Il se souvient de moi à l'approche des élections. Me parle de budget pour mon quartier de rénovation. Un petit coup de bâtir sur ma poubelle, je dois trouver la vie plus belle. C'est que t'es dans le pays, mon ami, je nique cette brève.
C'est pas l'Espagne ici, c'est pas la Jamaïque. Agresse ton voisin uniquement si c'est un bip. Dans nos embrouilles de meufs, de territoire de flics, on joue le jeu des keufs, fait des hommes politiques. Zongo zongo go zongo zeng. Car j'ai passé ma vie à cultiver ma haine. J'ai compris que je n'ai qu'une vie pour combattre le système.
Si tu fais dans ces terres-là, comme nos vieux on sera carotté. Si tu crois que t'as des coups de gars, tu sais où tu peux nous trouver.
Il se souvient de moi à l'approche des élections. Je parle de budget pour mon quartier de rénovation. Un petit coup de bâtir sur ma poubelle, je vais trouver la vie plus belle. Zigrigidam, mon ami, je nique cette voile. Nique ton mère, à l'est, à l'ouest, mon ami, au sud, au nord, c'est pas ta faute, ce qu'ils veulent avec ou sans ton accord. Dans cette ville, je prends le droit de le crier haut et fort.
Nique ton mère, nique ce bord.
Donc, vous venez d'entendre la tribu qui interprétait un morceau qui s'appelle Nique ton mère, donc spécial dédicace à tous les élus et tous ceux qui servent à rien, et surtout en rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le vote électronique. Il faut pas changer la technique, il faut arrêter le vote, c'est bien. Donc voilà, donc, je vais être toujours sur Radio Libertaire, donc l'émission Le Monde Merveilleux du Travail, et toujours les camarades du syndicat de l'informatique.
Merci Salah pour cette introduction. Donc c'est la dernière partie de notre émission. On a parlé dans un premier temps des impacts de la technologie et de l'informatique, et dans un deuxième temps, on a un peu parlé des différentes dérives, que ce soit le fichage des données des utilisateurs, l'espionnage des communications. Et pour finir, on voudrait aborder un thème qui nous semble délicat. Je sais, j'ai déjà dit ça avant, on aborde que des thèmes compliqués ici. Hein.
Là, c'est pire.
Là, c'est pire, là, c'est le big boss de fin. Là.
Plus.
Et... Ce problème qu'on voudrait mentionner, c'est comment et est-ce qu'on doit de temps en temps restreindre l'accès à des contenus. Je pense que dans l'actualité récente, on a eu par exemple dans l'affaire Mera, il avait filmé ses attentats et il les avait diffusés sur Internet. Et aussitôt, l'État en a censuré l'accès. Donc ça, c'est un exemple de comment est-ce qu'on gérerait une situation pareille dans une société libertaire où on essaierait de contrôler l'accès. Comment on contrôlerait l'accès ? Un autre problème récurrent dans ce domaine, c'est les sites pédophiles, qui étaient un des fers de lance de l'action des Anonymous ces dernières années, sur les premières actions sur lesquelles ils se sont fait connaître. C'était d'attaquer des sites pédophiles. Donc, comment, dans une société libertaire qui est censée respecter le plus possible la liberté, est-ce qu'on doit imposer des restrictions de ce genre ?
Ouais, ben, c'est vrai que nous, libertaires, au sens que chacun donne aussi au mot, mais on est souvent effectivement plutôt tenté par le côté... Chacun s'autodiscipline, s'autogère, la société s'autogère, etc. Pour autant, enfin, pour moi en tout cas, personnellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Ça veut simplement dire qu'il n'y a personne qui accapare le pouvoir et qui décide tout seul ou en petit comité.
C'est la définition de
quelles sont les règles.
De l'anarchie, c'est, ouais, c'est pas d'ordre, c'est pas de pouvoir.
Voilà, c'est ça. L'ordre sans le pouvoir.
Voilà.
Mais pour qu'il y ait un ordre. Il faut aussi qu'il y ait des règles, comme dans un jeu. Dans un jeu, si à n'importe quel jeu, que ce soit la belote ou ce qu'on veut, ou les dominos, moi je commence à dire, ah ben non, moi je m'en fous des règles, je vais jouer comme ci, comme ça, et puis tiens, j'ai gagné.
C'est pas marrant.
Déjà, c'est pas marrant. Puis je pense que c'est peut-être un peu frustrant aussi pour les copains qui, ou les copines qui jouent avec nous. Donc voilà. Et je pense pas que les règles soient un mal. Je pense pas que les lois soient un mal. La question, c'est plutôt qui décide des lois, comment. Si c'est dans le cadre d'une démocratie directe, en consultation, en réflexion, etc. Moi, très bien. Les lois, je pense qu'au contraire, il en faut. D'ailleurs, je vois mal comment on peut envisager de faire société, de créer une société où chacun ferait ses propres règles. Ça, déjà, ça s'appelle plus une société, ça s'appelle je sais pas trop quoi. chacun pour soi ou chacun ça. Ouais. Ouais, voilà, ça c'est le bordel.
C'est
le bordel. Mais non, des restrictions, je pense qu'il en faudra de toute façon. Donc, ça me pose aucun souci qu'à un moment donné, on se dise. Tel genre de site internet, par exemple, ou voir, pourquoi pas, telle technologie, bah non, on va l'interdire. Alors, c'est peut-être un mot qu'on n'aime pas trop, qui nous fait un peu mal aux oreilles quand on l'entend, je sais pas. Mais pour autant, je pense que c'est absolument essentiel qu'il y ait des règles et qu'il y ait des choses où on se dise, ok, non, ça, bah, ça, on se l'interdit. On pose un tabou social dessus, ça, on ne veut pas. Donc, après, comment faire ? Alors, moi, j'imagine bien, pourquoi pas, des commissions, des mandatés qui se réuniraient pour discuter d'un sujet. Alors, ok, les sites pédophiles, ce serait le sujet, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait, etc. On contrôle, on ne contrôle pas, on interdit pas. Si le vote final, c'est on interdit, bon, bah, ok, les mandatés de machin ont voté que c'était interdit. Et à partir de là, bah, il suffirait de mettre en place, alors, une commission ou des mandats emploi d'informaticiens spécialisés, alors qui seraient pas des policiers, parce que c'est pareil, c'est un mot qui nous convient pas bien, on va pas se mentir, mais qui seraient en tout cas des gens chargés de surveiller et de supprimer ces sites-là s'ils en découvrent, évidemment, selon nos principes, c'est-à-dire sous contrôle, qui pourraient être démandatés, etc., dans cet esprit-là.
Et que ça soit transparent. Hein, sous contrôle, oui. Transparent et que ça ne soit pas des intérêts privés, qu'on soit bien d'accord.
Oui, voilà, après, c'est ça aussi la notion d'intérêt.
Faut pas que quelques intérêts privés, quelques organismes privés qui, en boîte noire, commencent à censurer, bloquer, en disant ça, c'est interdit. Donc, effectivement, il faut. C'est-à-dire une commission, le législateur décide. On a peut-être pas un pouvoir judiciaire, mais des mandatés qui eux appliqueraient ou jugeraient. Mais tout ça en toute transparence, parce que si on commence à réglementer un peu, à dire donc la pédophilie, le terrorisme, j'en veux pas. Alors ça, c'est les thèmes à la mode, hein. C'est vraiment les thèmes qui ont été usés jusqu'à la corde, mais qui marchent toujours autant.
C'est pour ça qu'on en parle, en fait, de l'accroche. Hein.
Et puis malheureusement, ça sert aussi à beaucoup de.
Ouais, ça a été vraiment instrumentalisé. Hein. Et alors on va dire oui, mais alors je veux pas de pédophilie, je veux pas de terrorisme, donc je l'interdis, je fais une loi. À mon sens, à juste titre. Mais je vais donner la main à tel organisme qui va se charger de faire de bloquer les sites. Et cet organisme ne va pas diffuser la liste des sites qui bloquent. Donc c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Hein. Et quand ces listes de sites bloqués ont été rendus publics, ouais. On s'est aperçu que finalement, c'était surtout des opposants politiques, et finalement, l'interdiction légale s'était transformée en censure.
Donc après, c'est ça.
La transparence.
La transparence, comme tu dis, il faut contrôler ce qui se passe et pas laisser ça à trois mecs dans un bureau.
Pas à des intérêts privés, parce que sinon, finalement, c'est plus neutre. Et s'il y a des intérêts privés qui permettent de nous connecter au réseau, eux ne doivent être que des intermédiaires pour nous connecter. Ils ne doivent pas avoir un droit de regard. Sur ce qui se passe, c'est au législateur de décider. C'est pas
ce que tu dis concrètement, c'est que c'est pas à Orange et à Free de décider.
Voilà.
Tel site internet, t'y as pas accès.
Voilà. Et ça, c'est la problématique de la neutralité du réseau. Neutralité du net, même du réseau, c'est même plus large. Et ça c'est fondamental que chaque internaute ait un accès, on va dire, complètement ouvert, qu'il fasse des choses légales ou illégales, mais c'est pas à son fournisseur d'accès de décider.
Oui. C'est-à-dire qu'il faut déterminer un acteur précis,
public,
dont ce serait le rôle, voilà, public, dont ce serait le rôle de dire ça oui, ça non, mais pas les intermédiaires.
Et qui ne soit pas guidé par des intérêts financiers. Il faut vraiment qu'il n'y ait aucune motivation autre que du service et respect, on va dire, de ces règles.
À mon avis, le plus simple pour ça, c'est de prendre des citoyens, parmi les citoyens, qui voteraient, etc., qui éliraient des mandatés, des délégués, qui eux-mêmes diraient oui, non, pour bloquer ci, pour bloquer ça. Et à partir de là, on est sûr que tout est transparent.
Mais Jean-Christophe, je vois ton sourire taquin. Tu sous-entends que dans la société actuelle, c'est pas comme ça ou
Alors on peut prendre un exemple.
Des exemples, ouais.
Ah, mais des exemples de non-respect de la neutralité, il y en a quand même beaucoup. Alors ce qui a beaucoup fait parler, c'est Free. Hein, donc Free. Alors il paraît que les Freenotes, quand le soir, n'arrivent pas bien à voir leurs vidéos sur YouTube. Donc c'est un peu, il y a une guéguerre entre Google et Free, et il se pourrait que Free ne veuille pas payer les tuyaux, Google non plus, et donc ils réduisent un peu les débits ou ce qui peut passer, et c'est plus difficile de surfer. Alors bizarrement, les Freenotes qui vont sur Dailymotion aux mêmes heures n'ont aucun souci, alors que Dailymotion, YouTube font la même chose. Ils fournissent des vidéos en ligne. Et donc là, on suspecte de la neutralité. Alors c'est un non-respect de la neutralité du réseau. Mais c'est très difficile à prouver.
Oui, c'est ça. Faudrait le prouver.
Il faudrait le prouver. Donc, il y a des initiatives à côté. C'est de dire, moi, je vais faire mon fournisseur d'accès. Je vais me brancher moi-même. En garantissant une certaine neutralité, mais ça c'est possible que quand c'est pas conduit par la volonté d'actionnaire. Et enfin c'est ce qu'on fait chez nous dans notre association. On est vraiment une association, on est participatif. Chacun peut vérifier ce qu'on fait. Et donc
oui, à partir de là, t'as déjà beaucoup plus de transparence. Mais finalement, notre problématique est transversale à la problématique générale, si on peut dire, de ce qu'on connaît dans notre société telle qu'elle est organisée actuellement autour du capitalisme et du productivisme, c'est-à-dire les intérêts économiques, financiers, créent des situations qui nous sont désagréables, finalement. Donc le fait de, on va dire, je sais pas, d'extraire l'importance ou la prédominance de l'économie et de la volonté de réaliser des profits, réglerait tout. Peut-être pas non plus, sans exagération, mais réglerait une bonne partie de la problématique qui est effectivement que des choses sont faites ou pas faites ou censurées en rapport avec des intérêts financiers, une minorité.
C'est ce que nos amis décroissants soulignent sous le thème de décoloniser l'imaginaire. C'est vraiment de dire que voilà, on est dans une société où le capital, la société économique est valorisée à outrance et que ça transparaît même dans notre culture et dans notre imaginaire où tout ce qui est production va être valorisé.
Ouais, et puis c'est sur l'imaginaire, je pense qu'il y a beaucoup cette idée de, par exemple, autre thème, la vitesse, qui est prédominante dans l'idéologie actuelle du capitalisme. Il faut aller toujours plus vite, faire les choses de toujours plus vite, je sais pas, c'est l'idée de l'avion. Donc demain matin, je peux être à Bangkok sans souci et prendre un week-end de vacances. Et les technologies, c'est clair, je pense en tout cas, font qu'il y a cette espèce, on en parlait tout à l'heure, d'instantané, je peux communiquer avec n'importe qui en instantané, tout de suite. Et aujourd'hui, les technologies sont des auxiliaires de cette idéologie de la vitesse. Et on devient tous des moines soldats qui propageons l'idée que c'est génial d'aller toujours plus vite, d'être toujours plus vite connectés les uns aux autres. Alors que je sais pas, sur le fond, si c'est si génial que ça d'être toujours collé sur nos écrans, à dialoguer avec les uns, avec les autres, et finalement à approfondir aucun sujet avec les uns, avec les autres, et à rester dans cette superficialité à la Facebook où « Salut, ça va ? Ouais, ça va, lol ?» J'appelle pas ça un contact humain.
Tu fais partie de mes 5000 vrais amis.
Ouais, c'est ça. Voilà. Des amis, ça veut dire quoi sur Facebook ? T'as 5000 amis, ça rime à rien, ça n'a pas de sens. Et voilà, c'est plus du contact humain, c'est du, je sais pas, des, de la poussière, un peu, des bribes qui sont échangées comme ça. Tiens, ça va, ouais, ça va. Même avec, je pense, ton boucher dans le village du fin fond de la France, t'as plus de contacts.
Ouais, c'est clair.
De contacts réels, quoi.
Juste dire un truc, en fait, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les pédophiles, en fait. Sur la question de. Si on était dans une société donc anarchiste, en fait. Par exemple, on serait obligé de se poser la question de la pédophilie, en fait, et de tous les abus possibles qu'il pourrait y avoir sur le net, machin et tout. Et en fait, moi, ce qui me pose problème avec ce genre de questions, c'est justement, c'est quand on parle de ça, en fait, je dis pas, enfin, comment dire, c'est qu'il faut faire attention à ce genre de propos qu'on tient ici, parce que, enfin, je dis ça dans le sens où, par exemple, pourquoi, par exemple, l'État, quand il a décidé de mettre en place le fichage génétique, il a utilisé la pédophilie comme prétexte. C'est parce que ça parle à des gens de manière hyper intime, hyper compliquée, et que pour le coup, c'est l'argument massu pour dire, vu qu'il y a des pédophiles, il va falloir qu'on légifère par rapport à ces gens-là, en fait.
Ouais, c'est clair que cette loi a été commencée exactement sur le fichage des pédophiles, et elle s'est étendue de nombreux délinquants.
C'est des militants maintenant. Aujourd'hui, c'est militant. Aujourd'hui, tu te fais choper, tu te prends de la Gardave pour une occupation d'un immeuble, on te dit, vas-y, suce le machin, quoi. Et donc, le problème de ce genre de truc, c'est que nous, je pense aussi, c'est un truc, il faut qu'on fasse attention avec ce genre de questions, parce que, comment dire, par exemple, moi... Ce que je rêverais, par exemple, dans une société anarchiste ou libertaire, c'est que justement, en fait, que par exemple, la question de la pédophilie, on la pose autrement, en fait. C'est-à-dire que la question de la pédophilie, on se pose plus la question de comment ça se fait qu'une personne est pédophile.
Oui, tout à fait.
Et comment
la
ça
cause,
se fait
traiter la, cause.
Traiter la cause et se dire, voilà, comment on fait pour faire en sorte que déjà, tu vois, que cette personne qu'on sait que c'est un malade, qu'il peut faire n'importe quoi, enfin, comment on déjà, enfin, comment on protège les autres, de fait. Parce qu'il faut protéger les autres, mais c'est-à-dire comment on le protège lui-même, en fait, tu vois. Et comment on l'aide à se soigner, machin. Moi, ça me rappelle un truc, je vais peut-être pas parler trop longtemps, mais un truc sur la pression, sur la question de la prison aussi, tu vois. La question, c'est comment on traite, par exemple, comment on traiterait les délinquants, en général, dans une société libertaire, les criminels, les assassins, les violeurs, tout ça, tu vois. Et c'est une question compliquée, parce que pour le coup, juste nous, il faut juste qu'on fasse gaffe, nous, en fait, en tant qu'anarchistes, à se poser la question de comment on se posera la question, en fait, de ce truc-là, et pas juste comment on répondrait au problème.
Oui,
en fait, tu vois.
Bien sûr. Ouais.
Voilà.
Non, mais ça, t'as raison, je pense. Enfin, il me semble d'intervenir là-dessus. C'est vrai que sur le fond, notre idée de fond reste qu'il faudrait traiter le problème à la source, etc. Pourquoi il y a de la violence, pourquoi il y a des gens qui volent, qui sont souvent dus à des problématiques de sociales, de misère par exemple, de difficultés psychologiques qui découlent de difficultés économiques ou de difficultés familiales qui elles-mêmes découlent de... Enfin bon, voilà, on sait qu'il y a ces problématiques. Donc évidemment, notre but, ce serait principalement de neutraliser la cause réelle des problèmes et pas juste de dire, ok, toi t'as volé, bon bah tu vas en taule, parce que finalement c'est ce que fait le système actuel et c'est pas ce qu'on recherche. Néanmoins, bon, c'est vrai qu'on prend, on a pris l'exemple de des sites pédophiles ou de sites violents ou autres. Ça pourrait être d'autres exemples moins sensibles, moins difficiles. On a pris cet extrême pour illustrer le fait que de toute manière, qu'on le veuille ou non, on serait confronté à des problématiques difficiles et qu'il faudrait à un moment statuer, dire, enfin peut-être en tout cas statuer et dire oui, non, on n'interdit pas et avancer sur ces questions-là. Mais c'est sûr que notre solution, ce serait pas juste, c'est pas bien, on interdit
bien sûr.
Les méchants en prison.
Tout à fait, ouais. Mais bon, on est des informaticiens, on n'a pas pensé à tout.
Oui, oui.
Voilà. Ah ouais, non, mais t'as tout à fait raison.
C'est,
hein,
c'est un bon point de vue. C'est intéressant. Et peut-être pour finir sur... parce que là, on approche de la fin déjà de notre émission, ça passe trop vite.
5 minutes encore.
Ouais, on a encore 5 minutes pour évoquer la... pour revenir sur la notion... qu'on a évoqué au début, qui est celle de l'écologie, enfin écologie au sens large, c'est-à-dire peut-être dire santé, impact sur l'environnement, etc. On a vu qu'il y avait des impacts sérieux sur l'environnement au niveau des technologies de l'information et de la communication, et que on pourrait pas continuer à faire ce qu'on fait aujourd'hui, à savoir développer pratiquement sans limite toutes ces technologies, que ce soit téléphone portable, ordinateur, etc. Il y a un moment donné où il faudra qu'on trouve une limite, qu'on définisse une limite. Alors, soit on la trouvera, je pense, dans la réalité physique du monde qui nous entoure, qu'à un moment on n'aura plus les matières premières pour construire toujours plus de matériel, ou on n'aura plus d'uranium ou de pétrole pour faire fonctionner les centrales qui font qu'on arrive à alimenter des millions et des millions d'ordinateurs. Donc de toute façon, on sera condamné par la force des choses à faire autrement. Et une des solutions qu'on pourrait peut-être proposer déjà, ce serait l'arrêt ou la limitation au maximum de ce qui s'appelle l'obsolescence programmée. Donc on a déjà fait des émissions sur ce thème-là. On avait même fait une projection débat au Vignol sur ce thème-là. Et bon, grosso modo, pour résumer, l'obsolescence programmée, c'est le fait de décider de la durée de vie d'un produit. Ce qui existe pour énormément pour les technologies de communication, mais aussi pour les frigos, pour les bas nylons, pour tout ce qu'on veut, quasiment pour tout ce qu'on veut. Et donc c'est ce qui oblige à racheter tout le temps du matériel, parce que le matériel tombe en panne très vite, s'use prématurément. C'est-à-dire que là où des frigos avant duraient 25 ans, ils durent plus que 5-6 ans aujourd'hui. Voilà, c'est toute cette problématique-là. Sans que ce soit forcément facile à mettre en œuvre, il me semble en tout cas personnellement que ce serait un point absolument essentiel à développer dans une société libertaire, d'une part pour cette problématique des ressources et d'autre part aussi pour la question du travail,
ouais, le sens
d'ouvrier,
du travail.
Parce qu'un ouvrier qui va passer des heures et des heures à faire une machine qui va tomber en panne au bout d'un an et la refaire derrière, etc., est-ce que ça a vraiment un sens? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que cet ouvrier travaille moins à ce travail pas intéressant, finalement, aliénant, et puis que sa machine dure 20 ans,
plus d'un an. C'est un peu ce dont on a déjà parlé avant, c'est-à-dire où est-ce que tu places les besoins par rapport à la production. Ouais. Dans la société capitaliste, tu places la production avant les besoins. Dans une société libertaire, tu placerais les besoins avant la production. Et donc, je pense que ce serait une des réponses à l'obsolescence programmée, c'est de dire que bon, on a besoin de tant de trucs et il faut les faire de la manière la plus durable possible pour qu'on ait le moins à travailler possible. Et qu'ensuite, on puisse aller à la pêche et faire de la peinture et tout ce qu'on veut.
Ouais. Donc, réduire le temps de travail,
voilà.
En tout cas la partie quoi, travail aliénant. Quoi.
C'est ça. Ça réduirait le nombre de chômeurs aussi. Si on travaille moins, tout le monde travaille.
Là, je crois que Laurence Parisot est contre cet argument, mais bon, c'est un autre. Ah, ça oui, on l'emmerde. Non, mais c'est vrai que c'est un problème majeur qui serait évoqué. Je pense que le fait d'organiser la société de manière à concevoir les produits les plus durables et les plus solides possibles serait déjà un énorme pas pour la problématique des ressources, etc., économie des ressources, moins de pollution, mais aussi pour dégager un temps de liberté, de loisirs, de création personnelle indispensable.
Ouais, et ça répond aussi au premier point qu'on a cité, qui est l'idéologie de la vitesse, c'est-à-dire que dans une société où les produits sont plus durables, les changements de matériel sont plus lents, et les changements aussi de métier, enfin de compétences que tu dois acquérir sont forcément plus lents dans la société actuelle. Principale compétence, j'utilise le terme manager incompétence, on va demander aux travailleurs de pouvoir s'adapter. Il faut toujours s'adapter, être flexible, machin, bidule. Et voilà, dans une société où tu luttes contre l'obsolescence programmée, tu luttes aussi par effet de bord contre la vitesse, contre l'adaptation nécessaire et permanente de tout le monde à toutes les nouvelles technologies qui nous envahissent.
Oui, et ce serait pas forcément un mal d'avoir des technologies qui se renouvellent moins souvent. Parce que des fois, on me dit, ouais, mais tu te rends pas compte, l'informatique, si on le renouvelle que tous les 10 ou 20 ans au lieu de tous les 2 ans, bah, du coup, les processeurs, ils vont être plus puissants moins vite, les technologies vont être plus puissantes moins vite. Je dis oui, d'accord. Mais d'un autre côté, si c'est faire des machines toujours plus puissantes, des bandes passantes toujours plus puissantes, pour télécharger des vidéos de chats qui grimpent au mur de plus meilleure qualité.
Et de la pub.
Ouais. Toujours plus. Voilà, après, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire des choses qui vont toujours plus vite, qui sont toujours plus performantes? Faut voir, hein. Je suis pas sûr que les technologies qu'on a aujourd'hui soient vraiment répondent à des besoins réellement pertinents par rapport à une technologie qu'on avait il y a 5 ans. Bon, je veux dire, on a fait décoller une fusée en 1969, je crois. Ouais. On a mis un mec sur la Lune avec une grosse calculatrice. Donc,
c'est bon, clair.
Après, je dis pas qu'il faut revenir à l'âge des cavernes, c'est pas le propos, mais toute chose, toute proportion gardée, voilà, il y a des choses à relativiser et c'est pas parce que on a un peu plus de puissance dans le processeur tous les ans que c'est forcément la panacée et que ça améliore la condition humaine au sens large. Et moi, je suis assez d'accord pour qu'une société libertaire soit une société de la lenteur. Et je pense qu'on va devoir finir là-dessus parce que ça, là, nous fait des grands gestes. Et là, on va couper le micro. Ah, pas de censure, ça va. Bon, cela dit, on va quand même laisser le micro à nos amis qui vont prendre la suite.
Pour une émission musicale.